Bonjour et bienvenue dans cette émission qui vous présente la prochaine conférence du Centre de réflexion chrétienne. Aujourd'hui, Marie-Françoise Debreuil. Nous recevons Stéphane Lavignotte sur l'antenne de Radio Grand Ciel. Bonjour Stéphane, merci d'être Bonjour. Avec nous au téléphone.
Merci à vous.
Donc Stéphane Lavignotte, vous êtes militant écologiste de longue date, vous êtes ensuite devenu pasteur et vous êtes actuellement en poste à la Mission Populaire, un réseau de centres sociaux. Vous êtes également professeur d'éthique à la Faculté de théologie protestante de Bruxelles. Pouvez-vous nous parler un peu du cheminement qui vous a amené jusqu'à la fonction que vous avez aujourd'hui ?
Alors c'est un cheminement qui est passé par la réalité de la vie sociale, c'est-à-dire que j'étais issu d'une famille catholique côté maternel, protestant côté paternel, mais déchristianisée dans les années 60 comme beaucoup, engagée notamment du côté des sans-papiers, puis militant au Vert. Et en fait, de manière concomitante, il y a eu un peu une perte de sens de mon engagement politique, où je trouvais que ça manquait de profondeur, il me semblait qu'il manquait un humus à tout ça. Et puis à ce moment-là, il se trouve que les sans-papiers que nous accompagnions dans le 10e arrondissement de Paris, où j'habitais, ont eu l'idée, comme c'était arrivé plusieurs fois à l'époque, d'occuper un temple protestant, le temple des Batignolles. Et ben moi, militant pour les sans-papiers, je les ai accompagnés dans cette occupation. Et puis l'occupation se transformait en accueil, c'est-à-dire que la paroisse protestante a dit « vous ne nous occupez pas, c'est nous qui vous accueillons ». Et c'est quelque chose qui m'a énormément frappée, j'ai été très touchée par ce renversement, cette attitude qui transformait de manière concrète les paroles d'amour de l'Évangile. Et de fil en aiguille, eh ben, j'ai commencé à lire la Bible, à fréquenter la faculté de théologie. J'étais journaliste et j'ai commencé à écrire pour des journaux chrétiens qui étaient Réforme et Témoignages chrétiens. Voilà, quand on fréquente une paroisse et que vous faites des études de théologie, rapidement les paroissiens vous demandent « vous ne voulez pas devenir pasteur ?» Et de fil en aiguille, je suis devenu pasteur. Mais en ayant eu le désir de rester au plus près de la réalité sociale, d'où cet engagement dans un lieu de la mission populaire évangélique. Donc ce sont des lieux qui sont des centres sociaux, des maisons de quartier, et là en l'occurrence un lieu qui s'appelle la Maison Ouverte à Montreuil.
D'accord, vous aurez prochainement l'occasion de nous parler plus en détail de la mission populaire dans une émission prochaine de l'émission protestante de Radio Grand Ciel. Vous avez écrit un livre qui est sorti l'année dernière, dont le titre est « L'écologie, champ de bataille théologique ». C'est écrit aux éditions textuelles et dans la collection « Petite encyclopédie critique ». C'est pour nous parler de ce livre que vous venez à Chartres sur l'invitation du Centre de réflexion chrétienne le 16 mars prochain. En quoi la théologie et les 2000 ans de christianisme peuvent-ils influencer notre perception de l'écologie ?
Je travaille dans le livre ce que j'ai appelé un terme un peu barbare qui s'appelle les théologèmes. Alors théologèmes, c'est l'idée qu'il y a des concepts qui sont des concepts théologiques, des idées théologiques et qui sont un peu en dessous de toutes nos conceptions du monde. L'idée que tout le monde va comprendre, c'est que par exemple notre rapport au temps, notre conception du temps, dans l'Antiquité ou dans beaucoup de peuples premiers, le temps est conçu comme comme cyclique. Hein. Les saisons reviennent chaque année, et donc il y aurait l'idée d'un temps qui sera un temps circulaire. Et le judaïsme et le christianisme ont amené une autre vision du temps. Hier, il y avait le paradis, demain, il y aura le royaume, la fin des temps, au milieu, il y a la mort et la résurrection du Christ, et le temps devient un temps flèche, de hier le paradis à demain le royaume. Et cette idée du temps, elle est en dessous de... Aujourd'hui, tout le monde a cette conception-là du temps. Derrière, il y a une conception théologique et souvent, les gens n'en ont pas conscience. Dans les questions d'écologie, c'est un peu la même idée. C'est aller rechercher derrière nos rapports d'humains à la nature, quelles sont les conceptions théologiques qui sont derrière, sachant qu'il y a à la fois des visions théologiques dont on a pu critiquer qu'elles participent à un rapport prédateur à la nature, mais il y a aussi un certain nombre de visions théologiques qui, au contraire, ont imaginé un rapport fraternel aux autres êtres vivants, que ce soit les animaux, les plantes ou les écosystèmes. C'est un peu ça l'idée, c'est d'aller chercher nos inconscients théologiques pour mieux saisir nos imaginaires d'aujourd'hui qui nous font agir face à la nature.
D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, on a besoin de faire évoluer ou de renouveler nos imaginaires pour changer un peu notre vision et peut-être notre manière de pouvoir réagir face à la crise climatique.
Voilà, c'est ça. C'est l'idée que dans les changements nécessaires que nous devons faire, il y a des changements de structure. C'est parce qu'il y a une certaine structure de l'économie axée sur la mondialisation qui promène des objets d'un bout de la planète, parce qu'il y a une vision, certains rapports au profit, donc une certaine structure de l'économie qui va entraîner des questions écologiques. Il y a aussi une dimension de mode de vie. C'est parce que nous avons certains modes de vie, nos modes de transport, nos façons de manger, etc., qui ont des conséquences sur la planète. Mais tout ça, c'est aussi, il y a des soubassements à tout ça qui sont des imaginaires qui vont nous dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas, est-ce que c'est important de faire les choses rapidement ou pas. Et ces dimensions d'imaginaire, ben, ils sont aussi importants à saisir si on veut changer justement notre rapport à nos modes de vie, notre rapport aux structures, et puis notre rapport très direct aux animaux ou à ou aux plantes. Est-ce qu'on a un rapport, par exemple, de domination? On comprend, par exemple, le fameux verset Genèse 1:26, dominer la terre, est-ce qu'on comprend comme la terre est à notre disposition? Ou est-ce qu'on le comprend, par exemple, comme on a commencé à le comprendre dans les années 60, en se disant, en fait, dominer, c'est en latin, par exemple, c'est dominus, c'est un seigneur, mais c'est un petit seigneur. C'est un seigneur qui est un seigneur plus grand au-dessus de lui et qui doit rendre des comptes à ce petit seigneur d'une terre qui lui est confiée. Et donc, le dominer la terre, à ce moment-là, ce n'est plus « faites ce que vous voulez de la terre », mais soyez des bons gestionnaires de cette terre qui vous est confiée par un plus grand seigneur. Et il y a comme ça tout un ensemble de théologèmes, d'idées théologiques, de concepts théologiques qui nous est nécessaire de ressaisir pour essayer de les penser, pour mieux comprendre ce qui nous fait agir dans le monde dans lequel nous sommes.
Et finalement, ça pourrait être un moyen de pouvoir fonctionner de manière collective, et alors que dans notre société aujourd'hui, il y a finalement des évolutions personnelles par rapport à l'écologie, mais on sent bien que c'est pas suffisant et qu'il faut du collectif. Et donc, l'évolution de l'imaginaire pourrait être une aide précieuse pour une réaction collective.
Une grande partie de l'enjeu, c'est aujourd'hui effectivement comment on articule l'imaginaire, les modes de vie et les structures, et comment on articule justement l'individuel et le collectif. Parce que des habitudes, changer des habitudes, c'est à la fois se changer soi-même, et c'est aussi des habitudes, on les prend ensemble, on les prend en couple, on les prend en famille, on les prend dans une ville ou un quartier. Et par exemple, du côté des imaginaires spirituels, j'ai réuni ensemble un certain nombre d'imaginaires qu'on trouve dans les religions que j'ai appelé la pelote ruminante, c'est-à-dire comment nous sommes capables, non pas capables à un moment de nous arrêter, d'arrêter de courir, de regarder la nature, de ressentir les oiseaux qui chantent dans la ville, les arbres qui sont dans nos rues, et Calvin disait ne pas juste regarder en passant, mais s'arrêter pour réellement les regarder, réellement sentir sentir par exemple les fleurs, regarder leur beauté et rétablir réellement une relation à ce vivant immédiat. Et peut-être que si nous rétablissons cette relation à ce vivant immédiat, eh bien, nous pouvons passer à un autre niveau, à une autre pelote dont j'ai pu parler, qui est la pelote conviviale. C'est-à-dire qu'on prend conscience que nous ne sommes pas seuls, c'est-à-dire que nous vivons avec, dans une société qui n'est pas seulement la société des humains, mais avec les arbres, les animaux, etc. Et tout l'enjeu, alors, parce qu'on a pris conscience de cette responsabilité, de ce relationnel, ben, c'est de recréer une convivialité, comme disait un théologien protestant, André Dumas, une convivialité de tous les vivants, qui est une idée en fait qu'on trouve dès le XIIIe siècle avec François d'Assise, dont le titre, dont l'œuvre, une des œuvres a donné le titre de l'encyclique catholique Laudato Si, qui a donné, le pape François a pris le nom de François en référence à François d'Assise. Et François d'Assise disait qu'il fallait créer une fraternité de tous les vivants. Voilà, c'est tout l'enjeu. Partir peut-être d'un rapport personnel différent au vivant pour prendre conscience de notre responsabilité et ensuite essayer de construire une autre relation avec les plantes, les arbres, etc., mais aussi avec les autres humains, parce que ces changements-là, ils impliquent aussi, par exemple, un partage différent des richesses, sans lequel on ne pourra pas changer les structures suffisamment pour changer notre rapport aussi à la nature.
Merci beaucoup Stéphane Lavignotte. Vous nous avez donné envie de venir approfondir cette réflexion donc lors de votre conférence qui aura lieu le 16 mars prochain à 20h30 à la Visitation à Chartres, 26 avenue d'Aligre. Cette conférence sera aussi accessible sur Zoom. Vous pourrez accéder en allant sur le site Hello Asso. Hello HE2LO, Asso A2SO. Et en tapant Centre de réflexion chrétienne. Vous pourrez aussi réécouter ou télécharger cette émission quand vous le souhaiterez sur le site de Radio Grand Ciel. Merci à Émilie d'avoir assuré la technique. Au revoir, chers auditeurs, et à bientôt sur Radio Grand Ciel.
Said, I wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops, and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And the flower would be its offering of love to the desert, and the desert so dry and lonely that the critters all appreciate the effort. Et le jackalope buddy, je voudrais être un yeti pour voler dans la nuit et m'en aller loin d'ici. Mais le yeti a dit, je voudrais être un monstre marin pour pouvoir taper dans la main de tous les requins. And the rattlesnake said, I wish I had hands so I could hug you like a man. And then the cactus said, but don't you understand? My skin is covered with sharp spikes that'll stab you like a thousand knives. A hug would be nice, but hug my flower with your eyes. The flower said, I wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops and then dive deep into the sea. In the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it.